annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.
Bonjour monsieur l'abbé Barthes.
Oui, bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien grâce au Club des Hommes en Noir présenté par Philippe Maxence et auquel vous participez régulièrement. Vous avez rencontré plusieurs fois, il me semble, Benoît XVI. Et je voulais vous demander d'abord à quelles occasions vous l'avez rencontré.
Des occasions diverses. Il s'agissait de lui parler parfois de choses doctrinales, avec même ce qu'on pourrait appeler des disputationes, des discussions sur des points délicats. Je l'ai rencontré aussi pour un entretien. Dans les derniers numéros, peut-être le dernier numéro de Spectacle du Monde, c'était début 2001, donc peu avant son élection. Je l'ai rencontré par la suite, je l'ai rencontré jusqu'à son élection au souverain pontificat. Après, plus, il était plus visible.
Vous l'avez toujours rencontré en tant que cardinal Ratzinger.
Cardinal Ratzinger, et dans une période qui va, on va dire, des années 1990, je ne sais pas vous dire la date exacte, jusqu'à 2005. Voilà. La dernière rencontre, c'était 2005, juste avant l'élection.
Et c'était surtout pour des questions doctrinales.
C'était surtout pour des questions, parfois aussi des questions pratiques. Je peux le dire maintenant, puisque c'est de l'histoire. Il y a eu une période de discussion entre le Saint-Siège et la Fraternité Saint-Pédis qui a précédé les grandes discussions officielles. Les discussions secrète à l'époque, qui se sont faites sous l'égide d'un organisme qui s'appelle le GREC, qui est à Paris, groupe de rencontres entre catholiques. Et comme j'étais grosso modo l'organisateur, si vous voulez, et le cardinal Ratzinger, évidemment, notamment, c'est à cette occasion-là qu'il a dit. Enfin, on avait désigné, j'avais proposé un premier interlocuteur pour la Fraternité Saint-Pédis, c'était Monseigneur Gherardini. Sommité de l'école romaine, mais qui finalement s'est désisté, n'a pas voulu. Et le cardinal Ratzinger a désigné le père Morero, qui est un dominicain de l'Angélicum, qui est devenu depuis évêque de Genève-Fribourg. Voilà, donc c'était l'occasion d'échanges divers.
Et vous avez notamment eu un entretien avec lui en 2001, vous en parliez, dans le Spectacle du Monde. Qu'avez-vous retenu de ce moment à peu près?
Oui, alors c'était fin 2000 qu'a eu l'entretien. En effet, il a paru en début 2011. Ce que j'ai retenu de l'entretien, comme toujours avec Ratzinger, c'était qu'il était très. Un homme vraiment très intelligent, très vif, parlant bien français par ailleurs, ce qui aidait beaucoup les choses, mais vif au sens où on lui posait une question, quelle qu'elle soit. Et il me répondait avant même que j'ai terminé, si vous voulez. Il voyait où je voulais en venir, et hop, il partait. Ça, c'était tout à fait agréable. Dans l'entretien, évidemment, il disait ce qu'il voulait. Donc, notamment, il ne voulait pas parler de programme de pontificat, puisqu'on parlait beaucoup déjà. C'était une espèce de période de préconclave, comme celle que nous vivons actuellement.
Il s'attendait déjà à être élu?
Alors, oui, on disait que non, mais moi, je dis oui. Et si vous avez l'occasion de voir l'entretien sous les yeux, la dernière question que je lui posais portait là-dessus. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que je lui tournais la chose de la manière suivante. Je lui expliquais, enfin il le savait, que sur Internet il y avait des sondages pour savoir qui entre le cardinal Martini, archevêque de Milan, qui était l'homme on va dire de centre-gauche, et qui avait fait ce que j'appelle un programme de pontificat, on savait ce qu'il voulait faire. Et l'autre candidat, l'autre homme qui émergeait, était Ratzinger. De l'autre. Voilà, je veux dire, les sondages donnent une priorité, enfin une supériorité à Martini, mais on sait bien que les sondages favorise plutôt, de cette manière, les hommes de gauche. Donc, en fait, c'est vous. Grosso modo, c'est la question, il faudrait la revoir. Alors, je me suis trompé. Et au lieu de dire les cardinaux, j'ai dit les candidats. Alors, il a éclaté de rire. Bon, et puis, il m'a répondu, comme ça, tout bêtement. Bien sûr, c'est ridicule, ces sondages, c'est pas la peine. Le pape est toujours là, il est bien vivant. Non, non. Mais en fait, il a quand même fait le portrait de ce que devrait être le pape qui va venir, un homme courageux, disant nous, enfin, je sais pas, si vous voulez, c'était ambigu comme formulation. Donc il admettait le fait qu'il puisse être cet homme-là. Même s'il ne l'a pas voulu du point de vue d'ambition, il savait évidemment qu'il était porté par les événements.
D'accord,
et par les hommes.
Il le pressentait.
Il le pressentait. À mon avis, pardonnez-moi, je pense que la condition qu'il posait, c'était d'être élu très rapidement. Il n'aurait pas, si ça avait traîné, il aurait laissé la place à quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire, il aurait laissé la place.
Ouais, je veux dire qu'il aurait laissé un autre homme de sa, un autre Ratzingerien, devenir pape.
Pendant le conclave ou avant?
Pendant le conclave, oui. En fait, ça s'est vu avant le conclave, dans ce qu'on appelle les congrégations générales. C'est là que tout se joue.
Alors comment ça se passait juste avant?
C'était avant le conclave. Tous les cardinaux, y compris les cardinaux émérites, enfin, qui ont dépassé 80 ans, se réunissent, oui, et discutent entre eux, théoriquement en secret déjà. Ce n'est pas le secret total du conclave, mais c'est déjà en secret. Ils discutent et chacun, enfin, un certain nombre d'entre eux, prennent la parole, ce qui permet aux autres de juger un petit peu de quoi il va retourner. Donc Ratzinger était à l'époque... comment appelle-t-on ça, doyen des cardinaux.
D'accord.
En fait, il n'était pas intermédiaire, si vous voulez. Il avait d'ailleurs toute la police italienne qui l'entourait.
C'était le bras droit de Jean-Paul II.
C'était le bras droit de Jean-Paul II, c'est ça, oui. Et considéré comme tel. Donc on voyait que ça montait, si vous voulez, même si les journalistes ne le voyaient pas trop, parce que chacun voit son propre candidat, les plus aigus, comme Sandro Magister, voyait que ça allait être lui. Il avait surtout beaucoup de grands électeurs, comme d'ailleurs, entre autres, le cardinal de Paris, Lustiger, qui faisait partie de ces électeurs.
Parce que les cardinaux disent, ne cachent pas leur...
Mais les cardinaux, surtout pas, si vous voulez. Le cardinal, si je puis dire, lui, il ne fait pas campagne,
oui,
officiellement, mais ce sont les autres qui le font pour lui et qui le défendent. Et notamment, je me souviens qu'à l'époque, le cardinal Ruini, qui était aussi un grand électeur de Ratzinger, qui était vicaire de Rome, dont le vicaire du pape pour la ville de Rome, qui comptait les voix. Et j'avais des informateurs qui me disaient, il entend, bon, c'était amusant, quoi. Mais surtout, ce qui s'est passé, bon, pour en finir avec cette histoire d'élection, c'est que la prestation de Martini, archevêque de Milan, était très mauvaise, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il était assez gravement atteint de la maladie de Parkinson.
Oui.
Donc il tremblait, il ne tenait pas son papier, donc il a été coulé.
À part cette dernière question de,
oui,
l'entretien, l'entretien
portait bon, sur diverses choses, sur comment l'Église devait se comporter, dire la vérité, en fait, ses difficultés avec les idéologies séculières, notamment ça lui tenait beaucoup à cœur. Je ne l'ai pas interrogé, je dois dire, j'aurais peut-être dû, mais enfin bon, sur les questions d'exégèse, c'est-à-dire qui lui tenait beaucoup à cœur, à savoir l'interprétation de la Sainte Écriture. Mais sur le reste, c'est ça, la note dominante de l'entretien, c'était ça, l'Église en face du monde moderne, du monde sécularisé.
Du relativisme, tout ça. Et au niveau de la personnalité de Benoît XVI, est-ce qu'elle vous a marqué, et si oui, comment?
Ben, je vous dis, cette agilité intellectuelle extrême, ça, c'est un homme très bon, c'est très paisible, très calme, très maître de lui, aimant rire.
Sens de l'humour.
Oui, beaucoup de sens de l'humour, tout à fait. Par exemple, dans ce fin d'entretien, là, je m'en souviens très bien, parce qu'évidemment, j'étais très stressé, moi. À la fin de l'entretien, on prend des photos, et on appelle Clémence, qui était son secrétaire à l'époque, pour les photos. Alors, Clémence, vous voyez, poussez-vous un peu à droite, un peu à gauche. Alors, Ratzinger éclate de rire, et il me dit, vous savez, il est allemand. Voilà, sinon, il faisait confiance aux gens, enfin, moi, je ne compte pas dans l'histoire, mais enfin, je veux dire, des collaborateurs. Il donnait toute sa confiance, toute son amitié. Mais aussi, il était très sensible aux trahisons, ou ce qu'il estimait être des trahisons.
D'accord.
Et là, pour le coup, quand il estimait qu'un tel l'avait trahi, j'ai des exemples en tête, c'était terminé.
Il
était très difficile de le faire venir. Celui auquel je pense est quand même devenu cardinal, mais il a fallu que d'autres poussent énormément pour qu'il le devienne.
Et donc vous, vous l'avez rencontré plusieurs fois, il vous reconnaissait.
Ah oui, non, c'est... Oui, oui, non, ça vous reconnaît. Mais il me connaissait, il savait.
D'accord, il savait très bien qui vous étiez. Pour terminer, si vous deviez donner une caractéristique, c'était sa clarté d'esprit, donc ?
Oui, je dirais sa clarté d'esprit. Bon, sa critique, si vous voulez, je la donnerais dans son œuvre. Hein. J'ai mis à dire aux hommes en noir, et même à CNews, qu'il a été l'homme qui voulait assagir le concile. Donc, sa caractéristique, c'était cette œuvre théologique de voilà, faire passer le concile en évitant tous les excès qui avaient pu avoir lieu et qui ont lieu après lui.
Eh bien, je vous remercie et puis je dis à bientôt aux auditeurs de l'Homme Nouveau pour d'autres témoignages à propos de Benoît XVI. Merci,
Monsieur
Hubert.
Merci à vous.